Bienvenue à Scal 1718 avec Fulgence Blanc au micro, Maurice Bolduc à la technique. Oui, on démarre en fanfare cette semaine. En première partie d'émission, j'ai concocté quelques sujets pour vous. Parce que la chroniqueuse de nutrition ne sera pas avec nous aujourd'hui, elle sera là de retour demain. En première partie d'émission, en début d'émission et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir aujourd'hui Lynn Dentiste qui est comédien diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. C'est au sujet de la pièce « M'appelle Mohamed Ali au Festival Transamérique ». Ça se passe maintenant. Oui, il va nous parler de ça à partir de 17h30. La sempête de temps, je vais parler tout de suite des inscriptions aux 26e journée avant d'aborder les gagnants, les grands vainqueurs de Roland-Garros à Paris. Je vais parler des inscriptions aux 26e journée de la culture qui sont ouvertes pour les artistes, les artisans, les travailleurs culturels, les gens du milieu des affaires aussi, de l'éducation, du communautaire, du municipal ou d'un autre secteur de toutes les origines et de partout au Québec, il est temps de vous inscrire. Hein. Pas vous, mais vos activités. Voilà, c'est la 26e édition. Ce sont les 26e journées de la culture. Culture pour tous, journée de la culture. Voilà, et qui auront lieu le 30 septembre, le 1er et 2 octobre prochain. Donc, il faut s'inscrire maintenant. On n'attend pas la dernière minute pour s'inscrire. Donc cette année, la thématique qui sert de fil conducteur à la programmation prend la forme de ce cri de ralliement qui réfère à ce que la culture représente pour chacun, la fierté au bienfait qu'elle induit. Quoi, voilà. Donc clamez ce que la culture représente pour vous, manifestez-vous haut et fort. C'est bien ça, c'est la thématique. Voilà, votre activité doit... Est-ce que votre activité que vous faites actuellement correspond à l'un des volets suivants? Il y a le volet numérique Bell. Bon, de toute façon, elle va s'inscrire automatiquement. Elle va bénéficier aussi d'une visibilité spéciale au sein de la programmation de culture pour tous. Et puis, des journées de la culture. Ce sont ces trois journées-là. 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre prochain. Volet numérique, c'est réalité virtuelle augmentée, balado, découverte. Balado, c'est les podcasts, bien sûr, pour les autres, balado pour les uns. Programmation de robots ou création sur iPad, créativité, allie culture et numérique. Voilà, et puis elle fera partie du volet numérique. Belle, ça c'est ça. Et puis, hommage à Riopel, l'année 2023 va marquer le centenaire de la naissance du peintre canadien le plus célèbre au monde. Donc, à l'invitation de la Fondation Riopel, c'est à la rentrée scolaire et culturel 2022, que le coup d'envoi va être donné pour les célébrations partout au pays. Donc les journées vous invitent à lui rendre hommage en vous inspirant de l'artiste, de sa vaste création, de son parcours et de son univers. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou bien qui ne connaissent pas son travail, allez-y faire des recherches sur Google, vous allez trouver des infos là-bas sur Riopel. Et puis il y a les activités famille, CSQ... Comme son nom le suggère d'ailleurs, ce nouveau volet invite les petits et grands à participer à une foule d'activités, toute une pléiade de choses à faire. Ateliers d'expérimentation parents-enfants, découvertes culturelles, heures du conte pour les grands-parents, et puis autant d'occasions aussi à vivre des moments de bonheur et de plaisir en famille. Allez-y vous inscrire hein, avant le vendredi 15 juillet. Voilà, pour bénéficier pleinement de la campagne de promotion. Ça, c'est important. Allez-y sur le site info, vous pouvez leur envoyer un courriel. Hein. Le site, c'est culturepourtous, en un seul mot, .ca, ou bien leur courriel info@culturepourtous.ca. Allez-y. C'est chaque année comme ça, pour ceux qui ne ratent pas les opportunités ou bien qui n'ont jamais raté une édition, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, qui veulent découvrir ces 26e journée de la culture, allez-y sur le site là-bas, culture pour tous en un seul mot, culture au singulier. Et voilà, .ca et pour le courriel, si vous voulez leur envoyer les courriels, info@culturepourtous.ca du Canada. C'est intéressant, j'ai déjà participé à certaines de ces activités les années passées, les années précédentes. Alors pour ceux qui vont s'inscrire pour une première fois, ils vont avoir. Ah, c'est intéressant ça. Ils vont bénéficier cette année d'une visibilité supplémentaire dans sur le site. C'est ce qu'ils appellent bénéficier pleinement de la campagne de promotion, hein. En inscrivant une ou plusieurs, vous pouvez inscrire plusieurs activités, pas une ce soir parce que j'ai exclu cette activité que je peux pas faire autre chose. Il y a des gens qui sont tellement polyvalents, multidisciplinaires, qu'ils peuvent inscrire plusieurs activités aux journées. Vous allez obtenir l'accès à de nombreuses ressources gratuites, des guides à l'intention des organisateurs. Et ils recensent d'ailleurs toutes les informations qui vous seront utiles pour maximiser votre participation aux activités, ainsi que plusieurs pistes d'activités pour vous inspirer dans la création de votre programmation. On ne vous laisse pas seul, vous êtes coaché, vous êtes épaulé, vous êtes suivi, vous êtes guidé. Nous avons la trousse à outils pour les médias sociaux aussi, étape par étape, comment créer du contenu sur Facebook, Instagram et Twitter. Ne dites pas, oh, je ne sais pas comment jouer avec ces réseaux sociaux. Ils vont pas vous laisser tomber, ils vont vous guider, ils vont vous épauler, ils vont vous coacher, ils vont donner de l'information, voilà. C'est ça. Et donc, il y aura des meilleures pratiques aux vidéos en direct. Et quoi encore, cette trousse servira aussi de référence à quiconque ne maîtrise pas encore les médias sociaux. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Effectivement, ceux qui n'ont pas vraiment d'expérience avec les médias sociaux, voilà, les membres du personnel, les gens qui sont derrière Culture pour tous ne vous laisseront pas seuls dans le désert. Voilà, où on peut pas faire de fortune en vendant du sable d'ailleurs. On peut pas faire de fortune en étant vendeur de sable dans le Sahara ou dans le désert. Comment y assez? Allez-y, hein, sur le site. Là, il y a le répertoire des organisateurs, il y a le répertoire pour les réseaux sociaux. Vous allez avoir toutes les informations là-bas qui vont vous permettre d'inscrire vos différentes activités. Et comme je l'ai dit, je me le répète, vous pouvez inscrire plusieurs activités, pas une seule. Voilà, c'est important. Voilà. Ça, c'est donné. C'est parti. C'est comme ça. C'est mieux. Et puis, je pense que ça pourra permettre à chacun de vous de prendre part à ces trois journées de festivités, de culture, faites découvrir vos activités et découvrir d'autres activités, voilà, que vous n'avez pas connues ou bien que vous ne connaissez pas. Ça vous permettra, donc c'est chouette, ça, il faut le dire. Le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre prochain. Mais inscrivez-vous avant le 15 juillet. Voilà, ça c'est parti. On va faire une petite pause musicale. Et puis après, je vais attaquer d'autres sujets. Il y a le Musée des Beaux-Arts qui nous donne des nouvelles expositions. À voir dans l'univers d'Adam Pendleton. Conférence de l'autre côté. Et puis cinéma au musée. Après la pièce musicale, bien sûr.
Llevar la meta a su fin, prometer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Por vencer puedes llegar.
sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacerte sueños realidad, y puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes
Rivière avec la complicité de Gloria et Stéphane Puedes Légard. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je bricole l'espagnol, mais pas comme ça. Je vais savoir. Je le saurai un jour ce que ça veut dire, cette pièce musicale. Alors, je vais continuer maintenant avec le musée des Beaux-Arts de Montréal. La nouvelle exposition vue de l'intérieur, c'est l'exposition vue de l'intérieur, c'est Portrait de l'espace habité qui présente une sélection d'œuvres de la collection du Musée des Beaux-Arts pour rêver collectivement l'intérieur. C'est beau, hein? J'ai vu des images là. Des artistes de tous les horizons, d'ailleurs, comme Sorel Cohen, Pierre Dorion, Nathalie Rice, Stan Douglas, Ian Wallace et Orica James qui ouvrent une porte sur les différentes façons d'y vivre, non pas de l'intérieur, bien sûr, et d'y déambuler. Voilà. Allez-y sur le site là-bas du Musée des Beaux-Arts de Montréal, vous allez voir toutes ces infos, et puis bon, ben aussi, il faut s'inscrire, je vous le dis. C'est pas parce que c'est pas payant ou bien quoi, ça va, tous les événements là-bas sont pas, il y a des événements qui sont gratuits, mais il faut appeler. Il faut aller sur le site, faut pas appeler, il faut aller sur le site pour réserver sa place avant d'y aller. Voilà. Et puis il y a à voir dans l'univers d'Adam Pendleton. Vous la découvrez, la démarche de l'artiste new-yorkais Adam Pendleton qui présente au Musée des Beaux-Arts de Montréal ce qu'on a fait ensemble. Sa toute première exposition individuelle au Canada. Alors, ça mérite d'être vu, ça, il faut le dire. Hein. Voilà. Et puis, il y a de la conférence, bien sûr, de l'autre côté du miroir. Vous allez participer à la conférence d'ouverture du musée d'art actuel département des Invisibles, MAADI. C'est une œuvre imagée et conceptualisée par l'artiste Stanley Février. Mercredi 15 juin. De 17h30 à 19h. Ça, c'est là, c'est pas ce mercredi après-demain, c'est la semaine prochaine. Voilà. Auditorium Marcel Cummings. Panéliste Stanley Février, artiste, directeur général et conservateur en chef du MAADI, Philippa Estives, et puis commissaire indépendante et historienne de l'art. Il y a Iris Amzilev, il y a conservatrice de projet aussi qui seront là. Stanley, Musée des Beaux-Arts, département des Invisibles, mercredi 15 juin au du 15 juin au 28 août 2022. Ça, c'est quand j'aime bien les expos qui vont un peu plus longtemps comme ça, quand on dit 2, 3, 4 jours d'expo ou bien un mois, une semaine, c'est pas, voilà, on a le temps de de se mettre à jour, d'aller, de s'informer d'abord sur l'artiste et puis bon, d'y aller, quoi. Et puis il y aura des visites guidées, sculptures et architectures en plein air, vous profitez des beaux jours pour participer aux visites guidées en extérieur. Bon, vous allez suivre, il y a un guide bénévole qui est là pour cette promenade passionnante à la découverte du jardin des sculptures, de sculptures et de l'architecture des différents pavillons du musée. Quand on parle de sculpture, bon, ça c'est en français bien sûr, hein, français. Mercredi, dimanche, c'est à 11h, anglais, 11h30, oui, les heures sont anglais, 11h30, mercredi, dimanche, et parlons architecture, français à 11h, jeudi, samedi, et puis en anglais, c'est à 11h30, jeudi, samedi. Voilà, ça c'est parti comme ça. Et puis un autre, quelque chose de très intéressant aussi, partie monochrome, c'est le dernier rendez-vous avant la pause estivale, un mercredi par mois de 17h à 21h, le parti monochrome célèbre en colorama, bien sûr, en colorama, en couleur, une thématique présentée dans les salles de l'exposition Nicolas Parti. Vous avez entendu quoi, c'est leur mauve, c'est le jeune artiste peintre suisse, voilà, qui est toujours présent au musée des Beaux-Arts. Comme les autres, on les expose quand ils sont morts, lui, il expose, il est encore vivant, jeune d'ailleurs. Il n'a même pas encore 50 ans, même pas 60 ans. Et surtout, c'est qu'il est, il est talentueux. Quand on voit les photos, les peintures, mauve, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est intéressant. Donc, de 17h, un mercredi par mois, je dis bien, de 17h à 21h. Donc, rendez-vous le 8, c'est-à-dire dans deux jours, aujourd'hui c'est le 6, pour le parti monochrome rose. Au programme, visite de l'exposition à moitié prix, ambiance musicale. J'en ai déjà parlé ici d'ailleurs. Ouais, ça c'est clair, vous n'allez pas rater ça. Et cocktail, tatouage éphémère, cabine photo, projection au cinéma du musée et d'autres surprises. Il y en a plein. L'accès gratuit à tous les parties monochromes, c'est possible. Alors ça c'est, il faut voir. Cette offre est valable jusqu'au 8 juin inclusivement et ne peut être jumelée à aucune offre, à aucune autre promotion. Allez, je vous donne le code, hein. Écrivez ça. Code promo ROSE22. ROSE22. Ah, ça veut dire 2022, quoi. Ne ratez pas ça. Vous allez avoir, si vous y participez, vous allez avoir 2 mois supplémentaires gratuits à l'achat d'un abonnement au Musée des Beaux-Arts. Et puis à la salle Bourgie, à une fin de saison haute en couleur avec Musici de Montréal. Alors, vous avez Musiki ou bien Musici. Bon, ben voilà, l'orchestre de Montréal de Musicide, ça c'est bien ça, est de retour pour une cinquième fois, ouais, c'est bien ça, j'en avais parlé la dernière, dans le cadre de l'intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach, clôturant avec brio la 7e année de cette série tant appréciée, et du même coup la saison 2021-2022 de la salle Bourget, bon, sous la direction de Jean-François Rivet. L'ensemble fera résonner les chœurs somptueux et les mélodies touchantes du grand Jean-Sébastien Bach. Voilà, cette figure incontournable du baroque, 9 et 10 juin, à 19h, ça c'est fait. Et puis il y a du cinéma. Ah ouais, le musée ne peut pas le laisser tomber, c'est la période estivale qui arrive. Ne manquez pas la séance exclusive Kirido.io avec Saint-Ange Anglais de Mario Martone dans le cadre du cycle Retour en Italie le 9 juin. Oui, dans 3 jours. Et en programmation régulière, découvrez Coda, La vie en musique avec Saint-Ange François et de Claude Lalonde, Le lac des hommes de Marie-Geneviève Chabot dès le 10 juin aussi. Et les débuts du cinéaste Panayi avec Hit the Road, présenté au Festival de Cannes 2021 dès le 10 juin. Voilà, les horaires, le lundi. Aujourd'hui, là, c'est il y a une séance qui est déjà passée, La vie en musique, Coda, 11h40 ce matin, à 19h30, il y a une séance aussi, et puis, voilà, à 17h, Gabor, il y a un autre film, La vie des rêves, à 17h20, et demain mardi, voilà, à 15h, il y a Coda, La vie en musique, et puis La panthère des neiges, et ainsi de suite. Allez-y sur le site du Musée des Beaux-Arts de Montréal, vous allez avoir toutes ces informations qui sont là-bas, pour ceux qui aiment aller au musée de temps en temps, on ne doit pas dans les musées, on voit pour le plaisir des yeux, et puis bon, ben, ceux qui aiment l'art, et quand il y a du cinéma aussi, on peut en profiter. Alors, qu'est-ce que je vais dire un peu ce tournoi de Roland-Garros à Paris.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà. Parce que c'est fini. C'est fini. Les gagnants ont gagné. Et ceux qui devraient tenir les coupes ont tenu les coupes. Nadal, il n'en finit pas. Il n'en finit pas. Ah, Raphaël Nadal a poussé son corps dans ses derniers retranchements pour gagner un 14e Roland-Garros. Mais il ne le refera pas, il a dit. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, il est malade. Il va pas bien avec cette sale maladie qui le fatigue, le syndrome de Miller-Weiss. Je sais pas ça. Ça ronge les os, tout ça, mais il a toujours fonctionné comme ça, paraît-il, depuis le début de sa carrière de tennis d'un Nadal. Mais il a bien camouflé, mais avec l'âge, il ne peut plus rien cacher, ça c'est clair. Mais il y va, à fond, toujours son médecin est là. Oui, il est en train de lui faire des infusions, il y a des gens même qui ont parlé de drogue, tout ça. Non, mais il a fait. Mais si c'est à refaire, il ne le refera pas, comme il a dit. Il a fait ça pour... Roland Garros, il était soumis à des infiltrations quotidiennes pour insensibiliser son pied. Voilà, il est allé au bout de lui-même dans la gestion de la douleur. Mais c'était parce que c'était Roland Garros. Et il jure qu'il ne le refera pas. Je dis, Nadal, je t'aime bien, mais si tu veux sacrifier ta vie là, pour le tennis, en tout cas, fais attention. Voilà, quand on lui demande où vous avez gagné un 14e titre à Roland-Garros, comme votre titre à l'Open d'Australie, c'est une de vos victoires les plus surprenantes. Quel est votre état d'esprit après ce succès? Il n'a pas changé, mon état d'esprit n'a pas changé. Tout est une question de circonstances, je ne peux pas arrêter ce qui se passe avec mon pied. Ça c'est clair, c'est la nature. Voilà, avec les millions qu'il a, il n'a qu'à aller se choisir les meilleurs, mais il y a des maladies, même si il y a des millions, c'est les meilleurs médecins du monde. C'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça, c'est notre corps. On ne peut pas tout maîtriser, même si on est millionnaire. Voilà. Donc, ces deux dernières semaines ont été couronnées de succès. Mais je ne voulais pas parler de mon pied en début du tournoi, justement pour rester concentré sur le tournoi. Oui, il en souffre. Hein. Mais j'ai eu de nombreuses infiltrations sur le nerf pour endormir le pied. Voilà, pour que le pied soit insensible, pour lui permettre de jouer... Voilà, de s'appuyer sur son... Oh, mais c'est pas vrai. J'aimerais pas être à sa place pour le désensibiliser. Et c'est grâce à ça que j'ai pu jouer. Mais ce n'est pas sans risque, hein, car je ne sais pas comment ma cheville réagit sur certains appuis. Parce que c'est pas sensible. Ouais, je comprends. Mais c'est Roland Garros. Et tout le monde sait ce que c'est que ce tournoi représente pour moi. Je suis venu pour jouer le tournoi et j'ai gagné. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. La semaine prochaine, je ne sais pas quand, on va essayer un nouveau traitement. Du courage, Nadal. Du courage. Sans trop rentrer dans les détails, il s'agit de brûler le nerf à fond. Et brûler le nerf afin de créer une longue période sans douleur. Waouh. Comme celle que je viens de vivre, mais sans avoir besoin d'infiltration. Pour la suite, il faudra que je me pose la question de savoir si je suis prêt à subir une lourde intervention chirurgicale pour tout régler, mais on va déjà voir comment le nouveau traitement va fonctionner. En tout cas, je veux rester positif. Il veut rester positif. Oh ouais, je lui souhaite. Les infiltrations que j'ai vécues, qu'il a vécues, ne peuvent même pas aggraver ce qu'il a au pied. Voilà, c'est ça. Ça reste un one shot. Cela avait un sens de le faire pour Roland Garros. Bravo pour le titre. 14e titre. 14e. Roland Garros, ça il faut le faire. Et le jeune homme qui a joué face à Nadal contre Nadal, Gaspard Ruud, Rafa, ouais, il rampe. Nadal était trop supérieur à ce garçon. On le sait. 6-3, 6-3, 6-0. Ouais, c'est parti très vite, très vite, très vite, très vite. Ouais, on se dit 22 titres en Grand Chelem. Personne ne va le rattraper maintenant, là, je ne sais pas. Et en même temps, j'ai joué le pied endormi. C'est ça qui m'a fait peur quand j'ai vu ça aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et à Djokovic qui va perdre sa place de numéro 1 la semaine prochaine. Encore une semaine, parce que ouais, ça c'est clair. Depuis sa défaite en quart de finale contre Rafael Nadal, ça va coûter cher à Djoko. Le vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal, et son adversaire en finale, Casper Ruud, grimpe respectivement d'une et de deux places au 4e et 6e rang au classement du ATP publié ce lundi. Djokovic reste numéro 1 pour encore une semaine avant de céder sa place à Daniil Medvedev. Donc, Novak Djokovic vit ses dernières heures en tant que numéro 1 mondial. Voilà, ça, il faut lui dire, hein, il a été battu en quart de finale par Rafael Nadal qui gagne une place grâce à son titre. Il devient 4e, peut-être 5e, il est 4e. Le Serbe est toujours sur le trône de l'ATP ce lundi, mais en sera délogé dès la semaine prochaine par Daniil Medvedev, actuel 2e. Il va passer la première place, date à laquelle les points acquis lors de l'édition 2021 de Roland-Garros seront retirés pour chuter au 3e rang. Alors là, j'ai vu une photo de lui, il n'était pas du tout content, hein, mais il le savait. Il le savait que s'il n'allait pas en finale, qu'il ne gagnait pas le trophée, il perdait sa place, ça c'est clair. Voilà, il ne faut pas lui... Et le jeune homme, Gasper Ruud, présent pour la première fois au Grand Chelem, ouais, première finale, Grand Chelem. Ouais. Il monte de 2 rangs pour atteindre la 6e place mondiale. Et puis, Alexander Zverev, qui reste 3e malgré sa demi-finale. Et puis, les progressions notables du top 100 sont à mettre au crédit de Marin Cilic, lui aussi demi-finaliste, qui gagne 6 places pour retrouver la 17e place. Et de Olga Rune, qui intègre le top 30, 28 plus 12. Voilà, ça c'est, on dit parfois à cette nouvelle génération qui sortent de quelle académie de tennis, j'ai aucune idée. Et tout d'un coup, ils se retrouvent en quart de finale, en demi-finale, en finale. Et puis bon, oh, ils sont parmi, presque dans le top 10. Hein. Là, tu te dis, ok, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà, c'est fini comme ça aujourd'hui. Demain, je vais revenir sur la gagnante chez les dames, Iga Swiatek. Parler un peu d'elle et puis de son opposante, la jeune de 18 ans. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Lens Dentiste, comédien, qui va nous parler du spectacle M'appelle Mohamed Ali, qui se passe, qui commence demain, le 8, le 7 et le 9. Et le mercredi, il aura la rencontre après la représentation avec les artistes. Restez à l'écoute. À tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. L'invité est déjà au bout du fil. Lint Dentiste, si je prononce mal votre nom, corrigez-moi carrément, tapez-moi là-dessus.
Non, pas du tout, vous l'avez bien eu. Écoutez, ça arrive rarement, donc chapeau à vous.
Merci. Comédien diplômé du Conservatoire d'art. Mais je me suis dit, quand j'ai vu sa bio, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal, là, peut-être plein oui. de formations, il s'est retrouvé dans cette pièce, M'appelle Mohamed Ali.
Mm-hmm. Écoutez,
Lins, permettez-moi d'abord, je ne vous ai même pas encore dit bonjour.
Mais on se connaît depuis longtemps, on dirait.
Ouais, c'est ça. Je ne vous ai même pas. Quand j'ai vu le nom, la pléiade d'artistes, j'ai dit, comment est-ce que le réalisateur, le producteur allait chercher toutes ces grosses têtes pour les mettre ensemble pour jouer dans cette pièce M'appelle Mohamed Ali au Festival Transamérique.
Oui.
Ce clin d'œil qu'ils ont fait à la communauté afro-descendante cette année. Bonjour, Lynn. Oui.
Bonjour.
Oui.
Écoutez, en fait, c'est très simple. La raison pour laquelle on a réussi à avoir cette brochette d'acteurs, c'est simple. On n'a jamais eu la chance de jouer tous ensemble.
Oui.
Donc, quand on a présenté le projet à tous ces comédiens,
oui.
la première chose, c'est enfin, on va pouvoir jouer ensemble. Enfin, on va pouvoir se challenger entre nous. On va être entre nous. On va avoir des discussions qu'on n'a jamais eues avec d'autres personnes, d'autres comédiens qui ont vécu la même affaire que nous.
Oui.
Donc, c'était pas mal simple. Puis aussi, bon, écoutez, on a rencontré toutes ces personnes lors de nos parcours à l'extérieur de l'école. Donc, ce projet, une fois avoir lu la pièce, le texte et ce que ça dit, ce que ça rejoint, en fait, c'était assez simple, là, je vous dirais. On n'a pas travaillé très fort. Là.
qui vous a contacté? C'est Tatiana ou bien c'est Dieudonné?
En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Tatiana et moi, nous avons ouvert le théâtre de la Sentinelle.
La Sentinelle vous appartient, vous êtes copropriétaire.
Exactement, cofondateur de la Sentinelle.
Cofondateur, oui.
Et on est allé chercher Philippe Racine comme directeur artistique. Et puis, il nous avait présenté ce texte qu'on voulait, quand on faisait de la recherche de texte. Et Tatiana l'avait déjà lu.
Oui.
Et on s'était dit, ah, mais ça serait énorme si on pouvait faire ce spectacle-là, parce que ça va directement dans notre mission, qui est de mettre des gens racisés sur scène dans des premiers rôles. Mais là, on se demandait comment est-ce qu'on fait, parce que le texte est fait pour un monologue. Comment est-ce qu'on fait pour le mettre?
Oui, c'est ce que j'ai lu. C'est vrai, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais comment ils ont pu transformer avec ces milieux d'artistes?
Oui. Eh bien, écoutez, avec Philippe Racine, Tatiana et moi-même, on s'est dit, ben, il faut trouver une façon de découper le texte pour avoir 8 comédiens qui puissent se le départager.
Oui.
Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça donne quelque chose d'assez hallucinant quand même, parce que oui, c'est un monologue, mais on dirait que les 8 voix qui parlent ce texte ont 8 perceptions différentes de ce que c'est que d'être noir, afro-descendant,
oui,
et comédien sur une scène québécoise. Et pourtant, le texte a été écrit à de l'autre côté de l'Atlantique. Donc,
oui,
c'est quand même assez hallucinant à quel point on se rejoint, peu importe où est-ce qu'on est sur la planète Terre.
Oui, oui, oui. Ouais. L'intentiste, Fayol Junior, Jean Junior, oui. English, oui. Major, Maxime Monperos.
Exact.
Vidmi Normil, c'était mon prof de motivation à l'école de radio-télé Promédia.
Ah oui,
c'était mon prof de motivation. Voilà.
Wow.
Martin David Peters, oui. Rodley Pitt, Frank Sylvestre et
oui,
Tatiana Zenga Botao. Je devais la recevoir la semaine passée, mais ça n'a pas marché.
Bon.
Ça va marcher.
Bon, c'est pas que partie remise. La Sentinelle n'est pas là pour partir encore. Donc,
ce n'est que partie remise. Mm-hmm. Alors, comment ça se passe, les répètes?
En fait, ça se passe très bien. Mm-hmm. Ce soir, nous avons notre général public, enfin du Nouveau Monde, qui vont voir le show. Et nous sommes quand même très fébriles. Ça se passe bien. On va quand même chercher dans nos côtés obscurs des sensations ou des paroles ou des mots qu'on n'a jamais dit sur scène. Entre nous, on se fait confiance, donc c'est une grosse camaraderie.
Mmh.
Et puis on a très hâte de livrer ce texte sur scène.
Oui, je peux m'imaginer, parce que là, les acteurs noirs entre eux, c'est un autre langage qui se parle.
Exactement, c'est autre chose quand il y a cette familiarité entre les comédiens, cette camaraderie encore une fois entre les comédiens.
Mmh.
On dirait que le travail est encore plus simple et il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'expliquer ou quoi que ce soit, parce que justement on a déjà passé l'étape des stéréotypes ou l'étape des oh mais je pensais que tu étais de telle façon. Non, c'est comme une grande famille qui est sur scène. Là,
oh, donc, oui. Voilà. Alors j'ai trouvé cette programmation, leur programmation de cette année vraiment géniale.
Je dis
merci à Marie-Ève Forger du FTA, du Festival Transamérique, qui m'a envoyé d'ailleurs le communiqué. Quand j'ai vu ce petit clin d'œil, figure phare du continent africain, les Afro-descendants, j'ai dit, mais et quelle mouche qui les a piqués cette année.
Oui, mais en fait, c'est une nouvelle direction artistique au FTA. Donc, chapeau à elle, Martine et Jessie, pour avoir pris, un tournant quand même, et puis d'avoir permis à plusieurs nouveaux textes moins entendus d'être sur la scène du FTA. Pas qu'ils ne le faisaient pas avant, au contraire.
Oui, non, mais avant, je recevais pas les communiqués. Mais quand j'ai reçu cette communiqué, c'est Marie-Ève Forger qui m'a envoyé ce communiqué. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais ah non, je peux pas me permettre de passer à côté, de fermer les yeux là.
Oui.
On nous fait un clin d'œil comme ça, il faut saisir l'opportunité, voilà. Et même quand j'ai reçu la co-directrice artistique, c'était Jessie, je crois bien, on a parlé de tout ça.
Oui.
C'est des gens, je pense que ça va continuer comme ça, ils vont pas laisser tomber après.
Voilà.
Ouais. Alors, comment c'est venu cette collaboration avec Tatiana, cette création de la Sentinelle? Comment l'idée vous a été germée? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de refus de la part du milieu, du côté typiquement blanc, ou bien quoi? On vous a dit, ah non, on a besoin de faire notre truc, et puis bon, ben on veut aller de l'avant, jouer avec, voilà.
En fait, quand moi, je suis sorti du conservatoire, Tatiana aussi a gradué du conservatoire.
Vous êtes de la même 2014. Promotion 2014. Elle, c'était avant vous, c'est en 2017.
Oui, exactement. Oui. Exact. Mm-hmm. Et puis, on s'est retrouvés sur une production ensemble.
Oui.
Et c'est sur cette production-là qu'on s'est dit que finalement, on avait peu de chances d'avoir des rôles de premier rang. Si on attendait que le téléphone sonne,
ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça. Oui,
donc
oui.
On s'est dit, ben on va s'arranger pour se mettre en scène nous-mêmes.
Oui.
Et puis on s'est dit, on va créer la compagnie. Puis
oui.
On a cherché un nom. Puis la Sentinelle est arrivée. C'est vraiment aussi simple que ça.
Oui.
On travaillait ensemble. On voulait un petit peu plus. Et puis on s'est dit, ben on va créer notre propre compagnie pour aller chercher un petit peu plus.
Oui. Bravo. Bravo. Non, c'est vrai, ça, je quand je vois, et puis, bon, de toute façon, les Lins ne fait pas que faire du théâtre, il y a un peu de tout, là, le circuit, formation, doublage, manchon et autres, tout ça, c'est une mm-hmm. tellement de cordes à son arc, comme beaucoup d'autres parmi ces acteurs avec qui vous allez vous retrouver sur la scène, là. Comment, mm-hmm. Quand vous êtes retrouvé sur la première fois pour les répètes, là, comment est-ce que vous êtes regardé, comment est-ce que vous avez souri, comment est-ce que...
En fait, c'est même pas bon ou mauvais, au contraire, c'est que on parlait plus de nos expériences qu'on parlait du texte. C'est ça qui s'est passé avec le texte de Dieudonné, pardon.
Oui.
C'est que une fois la lecture, c'est que on s'est trouvé dans une situation où est-ce que on était tous pour la première fois dans la même salle et on pouvait se parler de nos peurs, on pouvait se parler des expériences passées racistes qu'on a eues.
Ah, il faut le dire. Il faut appeler le chat. Ouais.
Oui, exactement. Mmh. Et puis, c'était réconfortant de voir des gens comme Winmir qui ont plusieurs années d'expérience. Puis Didier aussi. Didier Lucien était avec nous au départ quand on faisait la lecture.
Oui.
Et puis, ce partage de connaissances et de se dire, quoi, 30, 40 ans plus tard, ça n'a pas changé. Il y a toujours des affaires comme ça.
Ouais.
C'est à la fois triste, mais à la fois, je dirais, comment dire, ça nourrit. Parce que ça donne l'énergie de vouloir changer les choses et parce que maintenant, on a la force du nombre. On peut plus dire qu'il y a plus de comédiens noirs formés. Ça, c'est... En fait, il y en avait auparavant. C'était pas vrai. Il y en avait auparavant.
Oui, oui.
Mais
oui.
Sauf qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus qui sont comme la Sentinelle qui veulent mettre leur marque sur le paysage théâtral québécois,
oui.
Qui veulent mettre leur marque en tant que personnes racisées, qui ont une voix, qui ont des mots, qui ont une histoire mm-hmm. qu'il faut entendre. Et puis, je pense que c'est ça que ça fait. Hein. De se retrouver tous ensemble, ça nous donne la force pour pouvoir faire d'autres projets par la suite.
Ouais, Lynn, si je ne me trompe pas, vous êtes les premiers à avoir, au niveau du Québec, je veux dire, parce que du côté anglophone, il y a le Black Theatre Workshop.
Oui, oui, oui. Oui.
Quelle collaboration vous avez avec eux?
En fait, on est en pourparler avec le Black Theatre Workshop pour des projets que je ne peux nommer, mais disons, ils nous ont chapeauté sur un projet que j'avais créé en avril, qui était Andromaxa. Qu'est-ce que c'était Andromaxa? C'était une traduction en créole haïtien de la tragédie de Racine Andromaque.
Oui.
Où est-ce que j'ai situé le tout en Haïti après la révolution haïtienne. Donc, ils nous ont chapeauté là-dessus. Puis, des fois, on cherche aussi des textes qu'on aimerait traduire en français pour pouvoir le donner au paysage québécois français.
Oui, ouais. J'espère que ça va pas être la dernière collaboration entre vous là, entre vous comédiens là, voilà, parce que voilà, noir là, de vous retrouver dans des pièces comme ça, écrites par un des nôtres.
Oui.
Voilà, ça c'est très important. C'est très important. Même si c'est écrit par quelqu'un d'une autre région du monde qui pense aux acteurs noirs et dit ça, j'ai écrit ça pour vous, vous allez l'accepter, non?
Mm-hmm. Ben oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est ça notre mission, c'est de chercher ces textes-là
oui.
et de pouvoir les mettre sur scène. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, s'il vous plaît, envoyez vos textes. on en a besoin. Il y a que ça. Il nous faut. On a besoin de cette identité noire sur scène.
Oui.
Parce qu'il faut qu'on se reconnaisse sur scène. C'est pas juste pour nous qu'on le fait. C'est pour les générations futures et qu'on arrête de se dire qu'il faut sortir du Québec pour faire du théâtre. Non, notre identité, on a une identité propre à nous ici, qui est une identité de diaspora, oui, mais sauf que c'est une identité propre à nous. Puis après, on pourra l'exporter ailleurs, puis on aura vécu ce qu'on aura à vivre, mais je crois que c'est important de mettre notre marque et de parler de notre identité d'abord, puis après, on verra où est-ce que la vie va nous mener.
Oui. Linz, quand je dis « choir boy », la tête haute, ça vous dit quoi?
Si, pardon?
Quand je vous dis « choir boy », la tête haute, ça vous dit...
Écoutez, « choir boy », c'était toute une expérience. Toute une expérience. Vraiment, là, c'était la première fois que je me retrouvais justement dans une fraternité aussi forte, aussi puissante. Oui. Et c'est une des expériences depuis ma sortie d'école que je n'oublierai jamais.
Oui.
C'est des gens que jusqu'à aujourd'hui je parle. On essaye d'avoir de nos nouvelles tout le temps. Et puis une expérience folle, c'est une formation sur scène. C'est exactement ce que c'est. Mmh. Et de la famille, de la nouvelle famille que j'ai rencontrée. Sur Choir Boy, vraiment là.
Ouais, expliquez un peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
Oui. Eh ben, Choir Boy, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était monté au Centaure en anglais.
Oui.
Et c'est une école préparatoire pour jeunes afro-descendants.
Oui.
Et où est-ce qu'on retrouve une chorale que de garçons.
Oui.
Mais celui qui est à la tête de la chorale est homosexuel. Et puis, on sait que dans nos communautés, on ne parle pas beaucoup de homosexualité.
Non, c'est silence radio.
Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'était justement l'histoire où on suit ce personnage-là qui a des problèmes entre, en fait, vivre son homosexualité pleinement et ce que les gens ont ou des questionnements ou ont à voir par rapport à sa sexualité. Mmh. Même s'il est extrêmement doué pour ce qu'il fait, il est le meilleur là-dedans. Est-ce que ça va venir jouer sur sa position en tant que chef de chorale? Oui ou non, il faut aller voir la pièce.
Ouais, oui, mais c'est vrai.
Oui, c'est ça. Je vous réserve le reste si ça vous intéresse. Mais Choir Boy, oui, très intéressant.
Ouais, non, j'ai vu. Je me suis dit, il faut que je lui pose la question parce que là.
Oui, non, mais c'est vrai, on en parle pas, puis je trouve ça très intéressant. Encore une fois, c'est une personne de notre communauté qui a écrit le texte,
oui.
Qui parle d'une réalité qu'on ne veut pas parler chez nous, mais il la met sur scène et de façon tellement belle en
Et,
pour,
et pourtant, ça existe.
Ben oui, mais ça existe. On va pas faire semblant que ça existe pas. Ça existe. Mais pourtant, on n'en parle pas. Et ce genre de pièce, c'est ça que je trouve beau, c'est ça que je trouve intéressant avec le théâtre, c'est que ça ouvre sur la discussion, ça ouvre sur les possibilités, les échanges. Et puis, en fait, avec cette pièce, c'est pour ça que mon seul regret, c'est qu'il n'a pas été monté en français. Mais j'aurais aimé ça, avoir cette discussion-là avec les gens proches de moi, parce que on n'en parle pas et pourtant il y en a. On ne fera pas semblant. Donc, oui.
Alors que la noirceur tombe dans la salle du Centaure Théâtre, les premières notes de Power de Kanye West résonnent.
Mm-hmm.
Une pièce dont les paroles de la bouche même du rappeur américain représentent un hymne aux super-héros,
mm-hmm.
tout en abordant les thèmes de la critique, du désespoir et du suicide. Waouh! Mm-hmm. Une œuvre qui illustre à la fois la force de la communauté noire américaine et les combats qu'elle mène toujours contre les inégalités sociales. Tout ça, ça dit tout, quoi. Ça dit tout, ouais, ça dit tout. Alors, un dernier mot, on revient à la pièce. M'appelle Mohamed Ali. Alors, mais moi je croyais que ça allait durer 2 heures de temps, mais c'est 1h30 quand même.
C'est
1h30.
En effet. Oui, mais en fait, c'est quand même, pour nous comédiens, c'est quand même beaucoup parce qu'on
c'est
a
beaucoup, oui.
jamais
parce
la
Parce que c'est physique. C'est très physique, voilà.
C'est très physique, c'est très exigeant pour le corps, pour le mental, pour l'esprit.
Le texte,
parce qu'on est tous les comédiens sont là tout le temps.
Oui.
Donc,
c'est ça.
Donc voilà, c'est un monologue pour tous.
C'est pas une pièce basket où on se remplace toutes les.
Exactement. Non, on est là du début jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin. Bon, un dernier mot à nos auditeurs qui nous écoutent. Bon, pour les jeunes gens de la communauté qui aimeraient se lancer dans le théâtre, qui aimeraient, quel est le petit conseil que vous avez à leur donner?
Alors moi, le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est que faites-le, n'ayez pas peur de le faire.
Oui.
En fait, le truc, c'est que en ce moment, je me dis, en fait, c'est ce que je souhaite, c'est que j'ai mes enfants qui sont à la maison, puis je me dis souvent que c'est pour eux, elles, que je fais ce travail-là, c'est pour que dans le futur, elles puissent se voir, se reconnaître sur ces scènes, puis sentir qu'elles ont une identité propre ici et non qu'elles doivent aller chercher leur identité du côté américain,
oui.
parce que c'est ce qui nous rejoint le plus. Non, nous avons cette identité, donc forcément, sans prétention, on le fait pour nous, oui, mais c'est pour les générations futures qu'on est bâtir tout ce domaine. Et puis,
comme vous l'avez mentionné d'ailleurs au début de notre conversation.
Exactement.
Oui, oui.
Exactement.
Alors, donc, poussez. Oui, allez-y, allez-y.
Faites-le, n'ayez pas peur, faites-le. C'est sûr, c'est difficile. Tout est difficile dans la vie. Donc, mieux vaut faire quelque chose qu'on aime. Hein.
Ah, non, la vie, comme dirait l'autre, la vie, c'est le destin, c'est un farceur.
Je vous le vole. C'est fini. Ouais. C'est fini.
C'est gratuit, c'est pas payant.
Une chance.
Oui. Alors, je donne les horaires. C'est mardi 7, c'est-à-dire demain à 19h. Mercredi 8 juin à 19h aussi. Après, il y a la rencontre avec vous. Mm-hmm. Et puis le jeudi, le 9 juin, c'est à 19h aussi. Tout se passe au théâtre Katsu.
Exactement, oui.
Oui. Merci beaucoup, Lynn Dantis.
C'est moi qui vous remercie.
J'espère qu'on... Je vais tout faire pour être là-bas le mercredi pour pouvoir vous parler, vous serrer les pinces un peu.
Voilà. Oui, parfait. On se voit mercredi, alors.
Allez, bon show. Bon festival.
Merci.
À bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che ero tu ne mossi. Don't cry però, poi con l'amore. Noi guardammo il blu. Il mare in fondo ai tuoi occhi, grembi nudi lambi. Ai tuoi occhi carezzo tu le mosse.
Miseria.
sporcherò tu nel mosso. Viaggio in fondo ai tuoi occhi. Sporcherò, sporcherò tu nel mosso.
Ouais, pour ceux qui connaissent la voix de Sukero et l'instrument de Miles Davis, cette complicité Sukero et Miles Davis, Dunemos. Voilà. Alors, j'ai changé d'idée. Au lieu de parler de ce qui reste encore à dire du Roland Garros Paris 2022, voilà, j'ai encore du temps, quelques minutes pour parler de ça avant la fin de l'émission. Malgré la défaite, cette première finale à Roland Garros restera un souvenir éternel pour Casper Ruud. Le jeune ne sait pas chercher d'excuses après sa défaite en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal. Voilà. Il dit, l'Espagnol était simplement plus fort que moi. C'était votre première fois contre Nadal et la première finale en grand chelem. C'était sa première grande finale en grand chelem. Ça, c'est fou, quoi. Quand retirez-vous dit, je l'avais dit avant le match, je pensais qu'affronter Nadal en finale de Roland Garros était le plus grand des challenges, un défi permanent. Maintenant, je le sais. Nous nous étions déjà affrontés à l'entraînement, à son académie. Je lui dis merci, c'était sérieux, nous voulions tous les deux gagner. Et franchement, il met en entraînement la même intensité qu'en match. Mais là, les circonstances étaient différentes. C'est ma première finale en grand chelem. Et puis en plus, il y avait le public. Croyez-vous, j'ai eu du mal à me libérer en début de match. Mais ça reste une bonne expérience quand même. Vous savez, il y a des moments marquants dans une carrière. Et celui-là est déjà tout en haut de la liste. J'y penserai toute ma vie. Voilà. Alors, quand on lui demande encore, comment expliquez-vous le score sec du dernier 7-6-0, quoi, voilà, c'est comme ça qu'il a perdu. Ouais. Il est monté en puissance et à la fin, je ne savais plus où mettre la balle. Bon, certains disent qu'il a deux coups droits tellement son revers est bon. Mais c'est vrai, vraiment, je ne savais pas où envoyer la balle. J'avais l'impression qu'il était partout. Voilà. Il avait l'impression qu'il y avait Nadal partout de l'autre côté du filet. Ce n'est pas un secret que Nadal est touché au pied. Est-ce que vous l'avez senti? Non, pas franchement, mais non, bien sûr. Mais j'avais eu en tête qu'il a 36 ans et qu'il ne va pas en rajeunissant, bien sûr. Et qui sait si ça durait. À 22 ans, j'avais ma chance. Mais vraiment, je ne l'ai pas senti usé ou touché. Comme je l'ai dit en première partie d'émission, voilà. Il s'est fait mettre des choses par son médecin pour ne rien sentir, pour le rendre insensible, voilà, son pied. Oui, j'y pensais, et je disais qu'il fallait s'accrocher, car tout peut arriver dans un match. On l'a vu avec Alexander Zverev. Ça, c'est comme ça. Alors, bravo à ce garçon qui a son avenir devant lui. C'est comme la jeune Coco Gauff, la jeune américaine 18 ans qui a perdu face à Iga Swiatek. Voilà. Il va. C'est son mental. Elle a un mental, un physique de jeu. Elle a toutes les qualités pour durer au sommet. Je pense bien que oui. Alors c'est comme ça. Donc la Polonaise de 21 ans est devenue une joueuse ultra complète qui impressionne tout le monde et ne laisse aucune chance à ses adversaires. Dans ce qu'elle montre en ce moment, il y a très peu de failles. Elle a tout pour durer, surtout que les Williams, les Serena et autres ne sont plus dans les sillages. Bon, ben, elle va faire son petit bout de chemin. Ça, c'est clair. Ouais, c'est bravo à elle et bravo à la jeune Coco Gauff, 18 ans, qui a pu aller jusqu'en finale. Merci à toi, Maurice. On se retrouve bientôt. Je dis merci à notre invité, Lynn Dentiste, comédien qui va jouer dans la pièce à partir de demain. Ça se passe demain. À partir de demain au théâtre Katsu. M'appelle Mohamed Ali. Je dis merci à vous. Bonne semaine, bon début de semaine à tout le monde. Prenez soin de vos minutes et on se retrouve à la même heure, dans le même studio, sur les ondes de KLM. Ciao.